14h01, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1. Bienvenue chez nous dans le retour. On a 22 degrés présentement à Québec. Plus de nuages que de soleil. On poursuit en alternance pour l'essentiel de l'après-midi. Il y a quand même un 30% de probabilité d'averse. Le maximum est à 25 degrés. On prévoit sensiblement la même chose demain mardi, alternance soleil-nuages. Pas d'averse, maximum de 25 degrés. Le ciel se vide mercredi, 24 degrés. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le match Boulevard des Capitales jeudi, on prévoit une journée et une soirée ensoleillées avec un maximum à 24 degrés et un minimum à 13 degrés. On prévoit également du soleil vendredi. Pour nous rejoindre en studio par texto, le 418-971-1021, par téléphone dans le 418 également, le 780-1021. Pour nous écouter une fois sorti du char, ou même dans le char, si vous dépassez les limites de la région de Québec, si votre vieille radio graffigne un peu, l'application Boulevard, c'est rapide, c'est gratuit, vous nous écoutez en direct, vous faites du rattrapage, vous faites ça à votre rythme, à votre goût, à votre manière. Il y a également le blvd.fm. On est partout sur vos réseaux sociaux. Gravel dans le retour qui s'installe pour la première de la semaine jusqu'à 18h. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Week-end qui a été riche en émotions pour bien du monde dans la grande région de Québec, particulièrement dans la soirée de vendredi, où pour une première fois dans l'histoire du pont La Porte, on a revu des gens sortir de leur véhicule et partir en courant dans des circonstances où on n'a pas encore toutes les données et toutes les explications. On aura l'opportunité de revenir là-dessus dans les prochaines heures. Puis pour le reste, ben, vous avez fait quoi de votre fin de semaine? Mon nom est Denis Gravel. Véro, bonjour.
Salut, Denis.
Max, bonjour.
Salut.
Welcome back.
Merci.
Passes-tu la semaine avec nous autres?
Non.
Non, t'es pas assez fin, hein?
Non, je passe la semaine à week-end cette semaine,
oh,
l'après-midi.
Yes.
Je fais, okay. Je fais les matins à Boulevard jusqu'à midi, puis après ça, je switch à week-end jusqu'à 8 heures.
On a deux boys qui viennent de finir tout un marathon. 8 heures de radio non-stop pour Mathias et Jeff Fortin.
Fait que c'est pas vrai, moi, il m'a laissé m'outshine in mine. Moi aussi, je suis capable d'en faire des 10-12 heures de radio.
Ouais, ouais, fais ça, vous êtes en radioton, hein? C'est ça que vous faites cette semaine. Hey, y a déjà des problèmes de circulation à signaler, Max?
Oui, l'accès au pont Pierre-Laporte, notamment en direction nord, c'est bien au rouge. Pont de Québec, direction nord aussi, c'est très au ralenti. La 20 ouest au rouge entre route du président Kennedy et Taniata. Sur la rive nord, capitale est vers Pierre-Bertrand à partir de Neuvial, c'est au ralenti aussi. Quelques autres plus petits ralentissements, là, mais à 14h04, c'est un peu weird.
Oui, ben c'est un accident, entre autres, que sur Henri IV, direction nord. Là, c'est l'accès depuis le boulevard Champlain qui est entravé par un accident, puis il y a des services d'urgence sur place.
Ce serait terminé pour cet accident-là en tant que tel depuis quelques minutes, mais en effet, les répercussions se font encore sentir.
Je sais que vous êtes allé voir des shows, que vous êtes sorti en fin de semaine. Véro, t'es allé au Festibiaire,
oui,
vendredi soir.
Vendredi soir, puis ça faisait longtemps que j'y étais pas allé, un bon 3-4 ans, j'imagine. Puis moi, j'étais une fille de jeudi soir au Festibiaire.
Okay.
Parce que le jeudi soir, c'est là habituellement où tout le monde que je connais se retrouvait. C'était comme la fin de l'été pour tout le monde. Puis l'horaire, en fait, cette année, que ça a été vendredi. Maudit qu'ils font un travail extraordinaire. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Puis tu sais, c'est drôle parce que nous, on l'a vu grandir. Ça fait 16 ans déjà, le Festibiaire.
Déjà,
puis tu sais,
ouais.
on a vu les premières éditions. On a vu ces années-là où les microbrasseurs devaient faire des allers-retours de nuit pour être capables, ouais, d'avoir du stock le lendemain parce que c'était le début de la folie furieuse des microbrasseries.
Le premier Festibiaire de Québec, Max, c'était le Festibiaire où il y avait Green Day à l'Agora. OK? Dans la même fin de semaine. C'était la tournée d'American Idiot.
Ouais.
T'avais la Nordique Nation qui venait de lancer son fan club.
Cette journée-là.
Cette journée-là. Puis on croisait. C'était le fun parce qu'on était en ville. Puis quasiment tout le monde est allé voir Green Day à l'Agora. Je veux dire, c'est des circonstances particulières. J'en reviens pas encore que dans le temps, il ait réussi à booker Green Day à l'Agora.
En fait, ça a été le petit creux,
ben oui,
de la carrière de Green Day qui les a amenés là.
Puis écoute, il a fallu en profiter. Et je pense qu'on en a profité. Mm-hmm. Puis à chaque fois qu'on croisait du monde, là, il y en a qui nous disaient Hey! Je suis dans le fan club de la Nordique Nation. Ouais, c'est quoi ton numéro de membre? 33 420.
De niaison, on n'est pas rendu à 33 000 membres. On était rendu à 33 000 membres. C'était, complètement, c'était complètement débile. Puis étant donné qu'il y avait comme beaucoup d'effervescence en ville, ben je pense que le Festibiaire avait été pris de court pour sa première édition. Mm-hmm. Puis ils ont manqué de liquide.
Ben oui.
Écoute, le monde sont allés avant Green Day. Puis sont retournés après Green Day.
Puis ça, c'était sur quelques jours, en
oui.
pas le show de Green Day. C'était la tournée 21st Century Breakdown. Écoute. J'ai vérifié, là, le 20 août 2010. Fait que là, en fin de semaine...
Green Day était à son top, là. Ben, si tu me demandes mon avis à moi.
T'as raison. Puis là, tu sais, ça faisait un petit bout de temps. Puis là, tu vois à quel point maintenant les micro-brasseurs, les micro-distilleries sont organisés dans leur setup, dans ce qu'ils ont à offrir. Il y en a même qui ont leur propres petits mobiles qui sont sur place. Fait que ça roule, ça n'a pas de bon sens. Puis c'était la soirée où Jay Scott donnait un show.
Oui, puis là, maintenant, les shows de musique attirent presque autant que le reste, alors que ça faisait pas vraiment partie de la formule.
Absolument pas.
Dans les premières éditions du Festibiaire.
T'avais les Shirley qui étaient en première partie en plus de ça. Puis au moment où ça a été le tour de Jay Scott, il y avait plusieurs... J'allais dire plusieurs curieux, c'est faux, parce qu'ils commencent tout le temps ces shows en demandant pour qui c'est la première fois que vous me voyez. Puis tu vois que ceux que ça fait... plus que deux, trois fois, sont quand même assez, assez nombreux.
Ben, faut que tu l'haïsses pour ne pas l'avoir vu dans les dernières années. Là.
Mais
le faut gars, vraiment que ça ne te tente pas. Là.
Le gars est tellement sympathique. Ben oui. Il sait tellement comment travailler une foule. À chaque fois, je tombe sous le charme. C'était sa version solo. Là. J'ai pas vu la version full band encore. J'en rêve.
Parce qu'il s'est promené un peu cet été avec un band pour sonner un petit peu plus alternatif. Mm-hmm. Puis il me semble qu'on a eu cette discussion-là souvent, mais c'est des style de musique qui gagne à avoir des vrais musiciens. On l'a vu dans le cas du rap keb avec Soldia sur les plaines. Puis je pense que dans le style que Jay Scott fait, moi, c'est toujours ce qui m'a gossé un peu dans ses spectacles. Il y a deux affaires, en fait. Une, c'est la rançon du succès. C'est que maintenant, Jay Scott aurait juste à faire le premier accord de chaque toune, à s'asseoir, fermer son micro, puis tout le monde ferait le show à sa place. Là. T'sais, tout le monde chante, puis tout le monde chante tellement fort qu'il n'aurait même pas besoin de faire ses tounes.
Ah, tu vois, vu que c'est beaucoup de passants qui étaient là vendredi, c'est lui qui avait le spotlight, par exemple. Okay. Ça, on l'a moins vécu.
Puis l'autre chose, ben, c'est un peu ça, moi, qui m'a toujours un peu déçu, c'est de voir que une grande portion de la musique est faite avec du playback, ce qui m'a toujours gossé un peu. Là, mais
t'es encore là. Il n'est pas le seul à s'être mis sur la map en faisant tout lui-même. Tu sais, un Ed Sheeran, c'est carrément ça. Les premières années de Lord, c'était ça aussi.
Oui, je sais, ils font tout ça.
Jane. Puis lui, puis à un moment donné, d'ailleurs, il a fallu qu'il arrête une de ses tunes. Il était sur la tune Désolé. Puis il y a quelqu'un dans la foule qui s'est senti mal. Fait qu'on en parlait à quelques reprises déjà, là, que des artistes arrêtent leur spectacle puis s'assurent que tout est correct, que les paramédics sont sur place, fait qu'on a eu droit à ça. Mais toutes les fois, le gars, il s'est travaillé sa foule, puis il est le fun. Là, j'aime beaucoup ça, le voir en show.
Jay Scott qui avait sorti une nouvelle version de Buzzé, justement, avec son Garage Band. 365 jours par année, buzzé, 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 buzzé.
Toujours envie de fumer un de papier, je suis buzzé. Ça doit être bon.
C'est sûr, c'est sûr. Toi, t'es allé voir quoi en fin de semaine?
Moi, ça a été full country en fin de semaine. Vendredi, Matt Lang au Festival Loretin. Ça aussi, c'est un show gratuit. Il y avait du monde, là. Puis c'est clairement, il y a bien du monde qui allait parce que c'est un show gratuit. Puis en avant, il y avait un peu plus d'ambiance. Puis après ça, ben en arrière, t'avais
c'est
du monde qui dormait. Mais non, c'est... Fait...
Au moins, ils sont pas dans les VIP en avant comme au festival.
C'est sûr.
Là,
mais non, mais Matt Lang en show, c'est toujours un... Oui, il y a un coup de circuit, pour vrai. Le gars est capable de... Puis il a de plus en plus de tunes à lui aussi. Mm-hmm. Des hits, il commence à en avoir une coupe, Matt Lang. Puis il a son fameux medley rock aussi, style Big Shiny Tunes, qui termine avec One Step Closer de Linkin Park, où là, moi, je vais fou à chaque fois. Puis après ça, ben, c'était direction L'Asso à Montréal, qui est le festival country. Les dernières années, là, c'est la 5e édition. Là, ils faisaient tout le temps d'habitude vendredi, samedi. Puis là, cette année, ils ont changé ça pour faire samedi, dimanche. Puis le show de la fin de semaine est arrivé en tout dernier hier soir avec Mumford & Sons.
Jalousie que t'aies vu ce show-là. Ils sont bons en spectacle.
C'était vraiment solide.
Comment ils ont été accueillis par le public country?
Comme si c'était...
leur show à eux.
Ouais, vraiment.
Okay.
Je me posais la question... Puis tu sais,
dans Foule, t'étais-tu capable de distinguer qui était là pour Mumford & Sons puis qui était là pour la programmation de l'Assaut?
L'Assaut, c'est un festival où ça se promène énormément selon les artistes. T'sais, c'est style Oshiaga, style Pigeonnier à Québec aussi, où t'as les deux scènes, mettons. Là.
Mais t'as plusieurs petites scènes aussi, je pense. Hein?
Exact. T'en as moins à l'Assaut, mettons, qu'à Oshiaga, mais t'en as une plus petite scène, en effet. Mais c'est ça. Fait que les gens se promènent beaucoup, beaucoup. Fait que ça se fait naturellement. T'sais, le monde qui est intéressé par un band va tout le temps être plus en avant, puis les autres ben, vont s'en aller ailleurs. Mais quel show! Puis j'avais peur un peu pour eux parce que samedi, John Party, qui était la deuxième tête d'affiche, a complètement volé le show à Thomas Rhett's.
OK.
Qui était le gros nom de la soirée de samedi.
Ouais. Puis John Party, je veux dire, tout le monde chantait ses tunes, il a mis le feu à la place. Puis après ça, Thomas Rhett's était plate, à mon bien humble avis, puis à l'avis de pas mal tout le monde à qui j'ai parlé qui était là aussi. Et là, hier, Old Dominion était avant Mumford & Sons, puis j'avais toujours entendu énormément de bien d'Old Dominion en show, puis j'ai compris pourquoi hier, je me suis dit, Eppelay, Mumford & Sons, ils ont intérêt à arriver près, là. Puis ça a pris deux tunes que je me suis dit, OK, ça va être le show de la fin de semaine.
Ça fait drôle à dire, hein, parce que c'est pas des styles musicaux où ça nous donne cette impression-là. Tu sais, si je vous dis Iron Maiden, ils ont tout le temps la pédale dans le tapis en show. Ben
c'est
vous,
logique.
Vous vous dites, c'est normal, tu sais, c'est du métal. C'est... Mais je vais vous nommer deux bandes qui sont la pédale dans le tapis tout le temps en show et que ça fait toute la différence du monde. Coldplay, mm-hmm, puis Mumford & Sons.
C'est un bon parallèle.
Parce que dans leur style musical, mettons que tu t'es fait traîner là par ta blonde puis que ça te tente so-so. Après deux tunes, t'es poigné, t'es fait, ils t'ont eu, je veux dire...
Ils savent travailler leur setlist, ouais. Ils savent travailler leurs chansons qui, tu sais, sur album sont bien produites, assez léchées, ils vont te mettre dans un mood, mais en spectacle, ils savent qu'est-ce qui va faire lever une foule, même une foule qui n'est pas conquise. Mumford & Sons était venu du côté de la baie de Beauport il y a plusieurs années, mais pas sur le setup de Cigale, sur une espèce de grand arrêt. C'était, Maxime, là, c'est un des plus beaux shows que j'ai vus à Québec, puis encore là, je m'attendais à quelque chose de smooth. Je suis partie de là... Sous le champ, c'est là que je tombe en amour avec Mumford.
Ça, c'est avec Chris Stapleton.
Ouais.
C'est bon, ce tune-là.
Puis là, c'est dur à imaginer avec cette tune-là en arrière-plan, mais il y a des tunes où ça, tu sais, ça brassait, puis les grosses flammes, puis là, tu faisais comme tabarouette que... personnellement, tu sais, je connais les gros hits de Mumford & Sons, je connais les nouveautés qu'on a joué un peu à Boulevard, tout ça... Mais ils ont des tunes, puis je peux aller réécouter ces tunes-là, mettons, en studio, voir à quel point ça sonne aussi rock, puis mais en show, je peux vous dire que ça rockait. Là. J'ai headbangé.
Ils ont une énergie, Mumford & Sons.
Marcus Mumford est beaucoup plus en forme maintenant qu'il l'était il y a quelques années.
Okay.
C'est le gars, il s'est mis comme à s'entraîner, puis tu le vois là, juste dans sa présence sur scène. Il a joué beaucoup là-dessus, justement, pour avoir plus de fun en show, il en donne tellement de spectacles.
Hey, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Évidemment, on va prendre le temps de faire le tour. On va revenir sur les détails de cette entente là, qui a été confirmée aujourd'hui, celle de Churchill Falls. On va revenir également, on va reparler tantôt à notre collaborateur, Éric Sauvé, que vous avez peut-être entendu dans le courant de la fin de semaine.
Bien, d'ailleurs, on vient de recevoir un texto. Ouais, j'étais au Festibière vendredi, très bon avec les billets que j'ai gagnés sur vos ondes. La soirée a mal fini, par exemple. J'étais dans l'accident / fusillade à la sortie. C'est arrivé très proche de moi. J'avoue que quand tu repars du Festibière, tu t'attends à en aller tranquille chez vous et non pas être pogné dans un événement comme celui-là.
Surtout un événement qui est bien particulier puis que tu t'attends pas à ce que ça arrive parce qu'à Québec, on est dans cette grosseur de ville-là où on se dit ces affaires-là, ça arrivera pas ici. Mm-hmm. Ça va arriver ailleurs, mais ça arrivera pas ici. Puis il me semble que dans les 15 dernières années, ça fait une couple de fois qu'on dit ces choses-là sont pas supposées d'arriver ici. Un gars qui tue du monde avec un sabre à l'Halloween, quelqu'un qui tire dans une mosquée, tout ce qui bouge, puis une fusillade qui bloque un pont ou du monde, sont obligés de sortir de leur voiture comme dans un film de Spider-Man.
Ajoute à ça des erreurs sur la personne. Il y a beaucoup d'éléments d'actualité criminelle qu'on voyait pas nécessairement dans la région de Québec.
Exact. Pour ceux qui ne savent pas, notre collaborateur, avec qui on jase, entre autres, de tous les changements d'idées de Donald Trump en une semaine, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, notre ami Éric Sauvé, il m'a écrit, moi, vendredi soir, puis il commence à dire, ça tire du gun sur le pont, il dit, là, on se sauve. Il dit, tu te sauves comment? Là, j'y réponds. Il dit, qu'est-ce qui se passe, là? Puis j'avais de la misère à le croire. Puis là, je fouille un peu, réseaux sociaux puis tout ça. J'envoie des affaires dans notre conversation de groupe pour savoir si quelqu'un voit quelque chose, si quelqu'un est prêt à aller en onde. Finalement, Audrey est allée jaser avec Éric Sauvé, une entrevue que vous avez peut-être entendue dans le courant de la fin de semaine. On va y reparler tantôt à Éric. Éric est avec plusieurs membres de sa famille dans deux voitures. Puis eux autres, ben ils ont suivi le courant. Là. Quand ils ont vu du monde partir à courir, ben eux autres ont fait pareil. Ils sont sortis de leur char puis ils sont partis. Puis de ce que je comprends, c'est moitié-moitié. Là. Je sais pas si je serais resté dans le char si je serais parti à courir.
J'ai aucune idée parce que je lisais des commentaires qui disaient « Moi, je serais resté dans mon auto. » En panique, j'ai aucune idée comment je réagirais.
Tu peux pas savoir avant.
J'ai l'impression que, puis c'est stupide, mais j'ai l'impression que je ferais partie des gens qui se sentiraient plus safe d'un char qu'à courir dehors où j'aurais l'impression d'être un canard qui attend de se faire tirer.
Je pense que je me coucherais en dessous du char.
En dessous du char?
Ouais.
Ah, pas fou.
Ouais.
Tu sais, parce que tu veux pas trop t'éloigner. Puis en plus de ça, là, c'est facile d'en parler en tant que gérant d'estrade parce qu'on a certaines informations.
On sait jamais comment on réagit.
Voilà. Puis, tu sais, là, on sait qu'il y a eu un face-à-face. On sait qu'il y a eu des tirs. On sait qu'il y a eu un vol d'un autre véhicule. C'est quelques éléments qu'on possède, puis on aura les détails vraisemblablement avec le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes dans quelques mois.
T'as pas grand-chose à nous apprendre de plus des nouvelles aujourd'hui. Là.
Zéro pin bar. Sauf que quand t'es là, tu le sais pas comment ça se fait qu'il y a un accident sur le pont. Tu le sais pas pourquoi il y a des coups de feu. Tu sais pas il y a combien de personnes qui sont installées là. T'as aucune idée, t'as l'impression d'être pris en souricière. Fait que de dire « Hey, moi, j'aurais réagi comme ça », peut-être un petit peu plus facile quand tu as certains éléments de réponse versus dans le feu de l'action où la seule chose que tu as pour t'informer, puis ça, c'est déplorable, c'est les médias sociaux.
Ouais.
Il n'y a eu aucune communication, aucun texto, aucun rien qui a été envoyé par les autorités. Puis je comprends qu'il y avait trois quarts de police qui étaient impliqués, mais tu sais, envoyez un tweet, envoyez quelque chose, dites aux gens, restez dans vos chars ou encore dites que...
Ah, il n'y a pas eu de directive.
Il y a eu zéro directive. Je comprends que c'est le vendredi soir puis tout.
Le premier, ça a été Éric Duhaime.
Puis c'était comment est-ce qu'on appelle ça? De la récupération politique.
Les politiciens sont bons là-dedans. Fait que tu sais,
trouvez qu'il manquait de classe en passant.
Il aurait pu attendre un peu.
Ben,
puis tu sais, on sert toujours de ces événements-là chez les politiciens pour faire avancer des dossiers, faire avancer des causes, mais on aurait pu peut-être attendre un peu. Mais pour revenir au feu de l'action, quand tout ce que tu as comme info, c'est des vidéos sur les médias sociaux qui ont été prises une coupe de char en avant de toi, le stress doit être assez intense.
Oui, oui, j'imagine. Fait qu'on va parler à notre collaborateur Éric Sauvé un peu plus tard cet après-midi. D'ailleurs, l'actualité internationale qui continue de bouger. Fait qu'on va en profiter pour faire, c'est quoi, c'est une pierre deux coups?
Oui, facile.
Ouais, quelque chose de même. Là.
Peut-être même trois.
Ouais, peut-être trois, oui, effectivement. Hey, si y a des problèmes, si vous avez des choses à partager, des bonnes choses, des mauvaises choses, qu'est-ce que vous avez vécu en fin de semaine, gênez-vous pas. 418-971-1021. On a une belle date qui nous attend, nous autres, jeudi soir au Stade Canac, au Stade municipal. C'est le match Boulevard des Capitales, encore aujourd'hui. On va vous remettre des paires de billets pour venir fêter ça avec nous autres. Pour les autres, ben je vous le rappelle, capitaldequebec.com pour ramasser vos billets. Attendez pas trop parce que là, ils confirment, on annonce beau. Là. À partir de jeudi matin jusqu'à vendredi soir, c'est soleil mur à mur. Fait que ça va être du temps idéal pour le baseball. Attendez pas trop. Capital avec un S de Québec.com. On fait une courte pause. On revient. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. Gravel. La gang en ville et même ailleurs. C'est Gravel dans le retour. À Boulevard. 102-1. Le Québec Tattoo Show est de retour au centre de foire du 21 au 23 août. Des centaines d'artistes tatoueurs. Une ambiance unique où se mélangent art corporel, culture alternative, performance originale. On tente même de battre un record mondial pour le plus grand nombre de signatures tatouées sur un corps. Cette semaine, on fait tirer des certificats cadeaux de 250 $ pour vous faire tatouer par les experts du Québec Tattoo Show. La personne qui remporte ses deux billets pour le salon, en plus d'un certificat cadeau de 250 $ au salon de tatouage Paradox aujourd'hui, c'est Megan Forget. Son projet de tatouage, c'est terminer un début de manche thème marin et ajouter un petit quelque chose concernant sa grand-mère qui est décédée. Boulevard vous invite à vivre l'expérience du Québec Tattoo Show. Et qui sait, peut-être repartir avec un nouveau tatouage. Parlant de tatouage, j'ai écouté avec les gars le documentaire de Travis Barker en fin de semaine qui est disponible sur Disney+. Ça fait drôle à dire dans un documentaire comme celui-là, mais je suis comme passé à travers toute la gamme des émotions.
Oui, hein?
Je suis venu les larmes aux yeux une couple de fois. Je savais en gros ce qu'il avait vécu, mais pas tant que ça.
Louder Than Fear, le nom du documentaire, qui a été tourné sur 9 ans.
Travis Barker, qui est le batteur de Blink-182, qui est devenu après ça producteur, qui a parti ses marques de vêtements, qui est probablement un des artistes les plus collaborateurs de l'histoire de la musique. Il a même réussi à établir des ponts avec des domaines où normalement, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de batterie, comme le rap,
entre
autres choses. Puis lui, c'est un gars qui a commencé à se tatouer bien de bonne heure. Il a perdu sa mère très jeune, puis son père l'avait bien averti. Il dit « La journée où tu te fais tatouer, je te crisse dehors. » Et parce que tu vois que son père, tu sais, c'est quelqu'un de très traditionnel, l'armée américaine, puis tout, puis tout. Puis lui, il dit à un moment donné dans le documentaire, il dit, moi, les tatouages, c'était associé aux criminels pour aux gangs de rue, tu sais.
Tu peux pas avoir de job quand t'étais tatoué.
Ouais. Et parmi les milliers de tatous que Travis Barker a sur le corps, il y en a un que c'est pour son père. Puis c'est juste écrit « Pal », parce que les deux s'appellent tout le temps « Pal », tu sais, au lieu de s'appeler « Man » ou « Bonjour mon fils »,« Bonjour mon père », ils s'appellent tout le temps. Puis de ce que je comprends, c'est que Barker appelle constamment son père, presque à tous les jours. À chaque fois qu'il prenait l'avion, avant de partir, il appelait son père, tu sais. Et à un moment donné, son père lui avait fait une surprise. Puis quand Barker est revenu à la maison, il dit « Regarde, à même place, à même place... » que Barker s'était fait faire son tatou pâle.
S'est fait un matching tatou.
Le vieux papa conservateur de l'armée américaine s'était fait tatouer sur le bord de l'épaule le même tatou.
Wow.
Puis son fils, il croyait pas. Il dit « Hey, c'est un scratch, ça, là. » Il dit « Je vais gratter, ça va partir à l'eau. » Il dit « Non, non, c'est un vrai. C'est un vrai de vrai. » C'est un des nombreux moments cute dans ce documentaire-là. C'est un gars qui en a vécu énormément, qui en a bavé beaucoup.
Ah, oh, qui aurait pu l'échapper.
Qui aurait eu...
Un milliard d'excuses, entre guillemets, pour dire ben, « c'est pour ça que je suis tombé dans l'enfer de telle chose, de telle chose, de telle chose. »
Mais survivre à l'écrasement d'avion, juste ça, là, alors qu'il était brûlé au troisième degré sur 65 % de son corps.
11 semaines à l'hôpital.
Il a fallu lui peler la peau.
Ah, oh, c'est dégueulasse ce bout-là. Hein?
Comme on pèle une patate. Oh. C'est terrible. Sérieusement, ça n'a pas de maudit bon sens de voir qu'il est revenu de tout ça. Ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment la peine. C'est sur Disney+. Pis...
Un gars qui trippe sur ses enfants.
Oui, oui, oui. Tu vois à quel point ça a été important dans sa vie à plusieurs étapes et à plusieurs moments. Fait que ouais, j'ai passé par toute la gamme des émotions puis je ne m'attendais pas à ça. Fait que ça va au-delà de la musique. C'est le genre de truc que tu écoutes justement avec tes enfants pour voir que quelqu'un qui veut vivre peut passer à travers pas mal d'épreuves.
Puis quelqu'un qui a une passion aussi.
Exact. Ou peut-être même plusieurs.
Dans ce cas, c'est plusieurs passions. Hein? Quand tu te rends compte que oui, il y a le drum, mais que là, il découvre qu'il aime ça s'entraîner, il aime ça telle affaire,
ah, il est impressionnant.
Oui, oui, tu sais... Quand je te disais, c'est un artiste que j'apprécie, même s'il n'est pas nécessairement dans ma talle, mais je pense que c'est la complexité du bonhomme qui fait que je l'aime autant.
Louder Than Fear, le documentaire sur Travis Barker, c'est disponible sur Disney+ Max.
À la circulation, c'est au rouge sur la 20 direction ouest entre route du président Kennedy et Taniata. L'accès au pont Pierre-Laporte, toujours difficile également. Direction nord, pont de Québec, ça roule un petit peu mieux, mais toujours du rouge, je vous dirais, à la sortie. Direction nord, sinon, Capitale-Est, toujours un petit ralentissement, je vous dirais, entre l'avenue Godin et le boulevard Neuvial.
Véro, dans l'essentiel de nos nouvelles aujourd'hui.
Pas le choix de commencer avec ce point de presse-là qui a eu lieu sur l'heure du dîner du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve, alors qu'il y avait sur place la première ministre du Québec, Christine Fréchette, mais aussi le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, pardon, et Mark Carney, premier ministre canadien, qui était sur place pour annoncer une entente cadre concernant Churchill Falls. Ça veut dire qu'on n'a pas signé les finalités de la chose, mais par contre, on annonçait les détails de ce qui avait été sous-entendu à maintes reprises la semaine dernière. Churchill Falls, c'est une entente qui avait été signée il y a plusieurs décennies entre Québec et le Labrador, une entente qui allait venir à échéance dans les prochaines décennies. François Legault et l'ancien premier ministre de Terre-Neuve-Labrador avaient choisi de rouvrir cette entente-là. Finalement, quand Terre-Neuve est passée en élection, nouveau premier ministre qui a fait « Non, on perd dans cette entente-là, on met la hache dedans, on reprendra les négociations. Et dans les derniers mois, le fédéral s'en est mêlé avec, entre autres, des investissements important pour tenter de faire bouger les choses.
Bien, c'est 10 milliards que le fédéral a investi.
10 milliards, mais en plus de ça, tu as Hydro-Québec qui investit beaucoup. La base de tout ça, là, c'était Hydro-Québec. Labrador n'avait pas assez d'argent pour faire des infrastructures. On a mis de l'argent du côté d'Hydro-Québec et c'est comme ça qu'on avait négocié. OK, vous allez produire de l'hydroélectricité, mais il y en a une partie qui va nous revenir à nous. Donc, là, nouvel accord qui n'est pas tout à fait finalisé. Il faut encore s'entendre, entre autres, avec les Inuits parce que c'est sur leur territoire.
Mais surtout, si le gouvernement de la CAQ n'est pas reconduit puis que le prochain gouvernement est un gouvernement du Parti québécois, on sait déjà que cette entente-là s'en va dans le bac à recyclage.
Exactement.
Puis moi, c'est ce qui m'énerve un peu là-dedans. Je ne sais pas comment vous filez, vous autres, par rapport à ça, mais c'est comme une pièce de théâtre dont on connaît tous les mouvements à l'avance. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une moins bonne entente. Puis je pense qu'il faut parler de ça avec des économistes qui ont le moins de couleurs politiques possible.
Exactement.
Parce qu'on sait que la CAQ a intérêt à pousser cette entente-là puis à dire qu'elle est bonne. On sait que le gouvernement fédéral a intérêt à pousser cette entente-là puis à dire qu'elle est bonne.
Parce qu'ils veulent un gouvernement caquiste pas mal plus qu'un gouvernement péquiste.
Mais on sait aussi, platement parlant, que même si c'est le meilleur deal de l'univers, Paul Saint-Pierre Plamondon va avoir intérêt à dire c'est de la merde.
Puis on sait aussi, puis ça on l'a appris aujourd'hui, avec plus de précision, qu'il n'y en a même pas de deal encore.
C'est ça!
Moi, c'est ça qui m'a comme...
Le manque...
J'étais comme, OK, tout ça pour ça, là, vraiment, on nous présente cette conférence de presse-là, les deux premiers ministres, M. Carney, puis ce qu'on nous dit, c'est, ouais, ben là, c'est un deal, mais qu'il reste encore des affaires à fignoler.
La question a été posée directement par les journalistes à la première ministre, puis la première ministre n'est pas capable de répondre. Puis c'est un peu... Tu sais, j'écoutais le responsable des transports de la CAQ le matin avec vous autres qui disait...
Non, j'arrête, le ministre des Transports, ouais.
Qui disait sensiblement la même chose. Tu sais, ouais, nous autres, c'est notre projet. Puis oui, il tombe à l'eau si jamais on n'est pas réélu. C'est ce qu'on a compris de cette entente-là de Churchill Falls aussi. Là. Puis moi, je pense pas que ce soit un facteur de vote ni d'un bord ni de l'autre là, dans la prochaine élection. On a de la misère à relater là, avec ce qui se passe.
Non, effectivement, il n'y a personne qui, dans l'isoloir, va se dire... Oui, mais là, à cause de l'entente, je vais changer mon vote. J'en doute fort. Malgré tout, c'est une entente d'importance qui était présentée, une entente cadre d'importance. Puis là, il y a des questions qui ont été posées à Mark Carney qui était sur cette tribune-là, puis on n'a pas le choix, là. Les fameux tarifs. La guerre commerciale,
ouais,
où en sont
ça,
les
là,
négociations? Hein? Dans, c'est quoi? C'est 36 heures, je pense, ouais, hein, avant que les prochains tarifs de 50 % s'appliquent. Puis il y a encore des points qui achoppent dans les négociations, que ce soit l'automobile, les produits laitiers, l'alcool, l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. C'est des dossiers qui sont importants puis qui vont avoir un impact si parfois les tarifs entrent en ligne de compte. Là, il y a eu des négociations toute la fin de semaine. Puis là, on a demandé à Mark Carney, est-ce que le Canada va tenir tête aux États-Unis? Puis tu sais, t'as vu que sur le coup, il a gelé parce qu'il voulait même pas répondre à des questions concernant les tarifs. Puis il a dit, hey, on est en train d'avoir des négociations qui sont intenses puis délicates. C'est pas le moment d'avoir une négociation en public. Contrairement à ce que Trump peut faire, puis lui, il pitche tout à tout vent. Là, il y a des équipes qui travaillent en arrière de tout ça. Lui, par contre, ça, il s'attend à parler à Donald Trump d'ici mercredi. Puis, tu sais, c'est con, hein? Mais des fois, ces coups de fil-là, c'est ce qui va faire que, ah, oh, finalement, on va repousser un peu la date. Tu sais, on l'a vu, ça fait, Christy, ça fait presque 2 ans qu'on vit dans cet univers-là où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui tient la route puis qu'un coup de fil peut faire que ça part d'un bord ou de l'autre. Tu sais, il y a des entreprises qui se préparent aux impacts que ça pourrait avoir à très court terme. Tu sais, d'ailleurs, quand on parle d'influences qui proviennent de l'extérieur, on a l'inflation pour le mois de juillet qui a été sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Là, au pays, elle est à 3 % par rapport à 2,8 % en juin. Elle s'est accrue aussi au Québec à 3,3 %. Puis essentiellement, c'est quoi? C'est les décisions de Trump, c'est le conflit au Moyen-Orient parce que c'est l'essence qui coûte excessivement cher, mm-hmm, alors qu'il y a bien d'autres éléments où l'inflation se maintient à ce qu'on veut bien comme hausse du côté de la Banque du Canada.
Hey, puis, avant de poursuivre, ouais, Véro, il est 14h35. Peut-être glisser un mot sur l'actrice américaine Hayden Panettiere qui est décédée à l'âge de 36 ans. Est-ce que j'ai compris que c'est un overdose?
Tout s'enligne vers ça. Hayden Panettiere, c'est peut-être un nom qui vous dit rien comme ça, mais si vous avez regardé la série Héros qui avait été présentée, entre autres, à TVA, là, Save the Cheerleader, Save the World.
C'était la cheerleader.
C'était la cheerleader, effectivement. Puis dans quelques années plus tard, elle a joué aussi dans la série Nashville qui, sur plusieurs saisons, a été un gros succès aussi. Elle aurait eu 37 ans vendredi. Et c'est hier que les secours ont été appelés à son domicile de Caroline du Sud, où quand on s'est présenté sur place, elle était en arrêt cardio-respiratoire. Il y a des manœuvres de réanimation qui ont été tentées, mais malheureusement, son décès a été constaté sur place.
Une personne qui avait énormément de problèmes. Là, dans les dernières années, elle avait été obligée de céder la garde complète de son enfant à son ex.
Oui, qui est un boxeur ukrainien.
Oui, exact. C'est quoi? C'est Klitschko? Vladimir Klitschko?
Ouais, exact. Ouais.
Une petite blondée américaine, là, comme tout le monde rêve d'être là, aux États-Unis. À cet âge-là, de pas être capable de trouver le bonheur avec autant d'avance sur bien du monde autour, c'est spécial.
Elle ne l'a pas caché, elle a eu des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, de médicaments. Elle s'est déjà retrouvée en désintox. Dans les derniers mois, elle avait sorti ses mémoires dans lesquelles elle adressait tout ça. Puis là, les autorités n'ont pas confirmé la cause de son décès. D'ailleurs, les résultats de l'autopsie ont été partiellement rendus publics au courant de la dernière heure en disant il n'y a pas de marque de violence sur son corps, il n'y a pas de traumatisme non plus. Puis c'est avec les appels au 911 qui se rendent publics très, très, très rapidement, où on semble comprendre que ce serait une overdose qui pourrait être la cause du décès de la jeune femme.
Et 14h36, on fait une courte pause. Bon lundi, bon début de semaine. On a 22 degrés présentement à Québec. Je fais partie des gens qui sont pas mal surpris à 3h-20 aujourd'hui d'avoir aussi peu de détails sur les circonstances entourant tout ce qui s'est passé, entre autres sur le pont La Porte, vendredi soir. J'écoutais samedi l'entrevue que notre collègue Audrey Pinchot a réalisée avec notre chroniqueur Éric Sauvé, qui racontait, lui, ce qu'il a vécu sur place, sur le pont, avec des membres de sa famille. Puis je me disais, bien, dans le courant de la journée, on va connaître le nom de l'individu qui a causé tout ça et probablement nous expliquer il était dans quel état puis quelle a été sa nuit. Là, on est rendu lundi, puis des détails, on n'en a pas.
Oui, puis si ça continue comme ça, il va falloir vraiment attendre le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes pour les avoir. Pour ceux qui n'ont pas suivi la trame factuelle, vers 23h10, 23h15, premiers appels qui sont logés au 911 concernant un véhicule qui roule sur la 20 en direction du pont, mais à contresens, donc sans ligne pour aller chercher la voie qui habituellement, elle, va en direction sud. Il y a une collision. La personne sort du véhicule, tire sur un témoin qui était sur place, prend son véhicule, prend la fuite. Il y a une poursuite policière qui débute. Vous comprendrez qu'il y a trois corps de police qui ont été impliqués. Service de police de la Ville de Québec, celui de Lévis, mais aussi de la SQ. L'automobiliste qui a pris la fuite sur la 20 s'est retrouvé dans le secteur aussi de Guillaume Couture à la hauteur de la route L'Allemand. Il y aurait des tapis cloutés qui auraient été utilisés pour mettre fin à sa course. Et quand le groupe tactique d'intervention de la SQ a débarqué, l'individu était décédé à l'intérieur du véhicule. Il y a une enquête criminelle qui, elle, a été confiée au service de police de la Ville de Montréal, tandis que l'enquête sur les interventions policières, elle, ben, c'est le BEI qui est en charge.
Éric Sauvé est à la tête d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. C'est un ancien officier d'infanterie et de renseignement des forces canadiennes. Vous êtes habitué de l'entendre parler d'actualité internationale, mais bien malgré lui, vendredi soir, il a fait partie de l'actualité.
Ouais.
Salut Éric, comment tu vas aujourd'hui?
Salut, ça va bien? Puis effectivement, c'était bien malgré moi. Je cherchais pas à penser en onde pour ça, mais j'étais aux premières loges.
Écoute, à quel point tu t'es remis de tes émotions puis tu t'es repassé le film des événements dans le courant de ta fin de semaine?
Eh bien, ce qui arrive quand il y a un événement comme ça, c'est qu'on le processe en groupe, hein, on le processait en famille avec mes deux filles qui étaient à l'arrière, mes garçons, ils étaient dans un autre véhicule, mais il avait déjà passé le pont.
Mm-hmm.
Je te dirais qu'on s'en est remis assez bien. Sur le coup, oui, ça a été le choc parce que, tu sais, mes deux filles, quand on était sous le pont, mes filles pleuraient, là, je veux dire. Ma plus grande a dit, faut que j'appelle mes frères, faut que je me calme. Il était hors de question qu'elle retourne à la voiture. Mon épouse restait avec elle. Moi, je suis retourné à la voiture, mais, tu sais, sans enlever le drame parce qu'il y a eu un mort, puis il y a eu un blessé. Le lendemain, après quelques heures, on s'est mis à rire un peu.
Mm-hmm.
Tu sais, quand le stress descend, puis tu dis, my God, c'est complètement fou. Même ma petite de 9 ans a dit « Ouais, c'était le fun, finalement. » J'ai trouvé bien drôle.
On avait un petit débat au début de l'émission à savoir qui serait resté dans son char et qui aurait ouvert les portes pour partir à courir avec les autres. Puis c'est un peu 50-50 comme débat. Toi, avec du recul, as-tu l'impression que vous avez pris la bonne décision? Vous faites partie des gens qui sont allés se réfugier en dessous du pont en courant, c'est ça?
Quand c'est arrivé, je te mentirais pas, j'ai appelé un ami policier qui est à Montréal, un ex-sergent détective du SPVM, pas sur le coup, mais après, mettons, une demi-heure. Puis j'ai consulté ensuite des gens qui sont experts là-dedans. Moi-même, j'ai déjà comme eu des formations. Selon les meilleures pratiques, c'est vraiment, il y a trois choses à faire. Si tu peux fuir ce qu'on a fait, si tu ne peux pas te cacher, et si tu ne peux pas faire l'un et l'autre, combattre. Donc, on va s'en prendre aux tireurs. Dans notre cas, c'est un pont, OK? Il y a comme deux directions, il n'y en a pas quatre. On sait que le tireur est en avant. Notre réflexion, puis ça peut être un débat, là, ça a duré deux secondes. Ouais. On fuit vers le pont vers la porte parce que le tireur était du côté de Lévis. On s'est arrêté sous le tablier parce qu'on sentait qu'il y avait assez de distance entre nous et le tireur. Je me voyais pas non plus sprinter de l'autre côté du pont Pierre-Laporte pour arriver à Québec, parce que je pensais aussi qu'il fallait éventuellement retourner à la voiture qu'on avait laissée. Je pense que les quatre portes étaient restées ouvertes.
D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est des policiers, à un moment donné, qui vous ont donné la consigne de réintégrer les véhicules, ou c'est juste un mouvement de masse qui s'est effectué à sens inverse après un certain temps?
Écoute, il y a beaucoup de gens qui sont restés dans leur voiture. Il y en a quand même quelques-uns qui ont couru, quand même une bonne masse. Quand on était sous le pont, on a entendu les sirènes des polices de Québec arriver. Plusieurs voitures. Sirènes, gyrophares. Là, dans la partie du pont où ils arrivaient, la majorité des gens étaient dans leur voiture, donc elles se tassaient. Moi, je savais que quand ils allaient arriver à la hauteur de ma voiture, qu'ils allaient devoir la contourner, tu comprends? Mais il était hors de question que j'aille à ma voiture juste pour laisser les policiers passer. Je me suis dit, ils trouveront un moyen. Il y a peut-être d'autres véhicules, ils zigzagueront. Mais non, c'était pas le moment d'aller à la voiture. À un moment donné, quand les policiers ont mis à se promener plus à pied sur le pont d'un bord à l'autre, en général, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est « Je peux rien dire, restez dans vos voitures.
Okay. »
Parce que là, à ce moment-là, ce que j'ai compris par la suite, c'est que le suspect était aux abords du pont, peut-être même sous le pont, genre le pont Chaudière, là, du côté de Lévis.
Ouais.
Donc, il demandait littéralement de ne pas regarder en bas du pont. Parce que je pense qu'il y avait une battue qui se produisait à ce moment-là.
À partir de quel moment tu as été en mesure d'avoir des informations supplémentaires puis de te faire un bon portrait de ce qui s'était passé globalement ce soir-là? C'est-tu juste le lendemain matin ou c'est dans le courant de la nuit?
Dans le courant de la nuit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai pas su qu'il y avait eu un accident au moins avant 30 minutes après le début de l'incident. Parce que quand j'étais dans ma voiture, qu'il y a eu un bouchon spontané, moi, j'étais somnolent, j'étais du côté passager. Je me suis redressé, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai vu du monde courir. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Puis mon épouse et moi, on a eu la même réflexion. La fille qui nous a parlé, elle avait un teint blanchâtre, une face de terreur, puis elle a dit « soit tireur ou fusillade ». Ce qui me faisait croire qu'il y avait plusieurs tireurs, tu comprends? Et moi, dans mon scénario, dans ma tête, premièrement, on est rentré en mode action immédiatement, mais aussi, je me suis dit « c'est quoi les scénarios possibles? Est-ce que c'est un cas de rage au volant? Ça se pourrait très bien, après un accident. Est-ce que c'est un cas de règlement de compte de mafia? Ça se pourrait. Mais j'ai choisi, puis ça, c'est peut-être ma formation, là, le pire scénario, c'était des gars avec des kit bags remplis d'armes automatiques qui tirent à bout portant sur les voitures. C'est exactement ce que j'ai pensé. Et je me suis dit, je ne vais pas rester dans ma voiture, je ne vais pas être une cible facile. Et quand on courait, si j'exagère pas, là, on courait, on zigzaguait entre les voitures, profil bas.
Comme dans un film.
C'était Hollywood. Puis mon épouse disait littéralement, il y a un camion à gauche, pas derrière le camion. Derrière le premier camion, j'ai sorti mon téléphone 911. Les filles, parce que je prenais trop de temps, criaient « Papa, papa, deuxième camion, ma femme appelle les garçons. » On continue, c'était comme dans les films. Puis je tiens à le dire, j'étais extrêmement fier de les réactions de ma famille. Écoute, j'ai réalisé, je vous mens pas, là, après quand je suis sur le pont, que ma plus grande avait été nu-pied. Ma deuxième, il lui manquait un soulier. Puis ma plus grande avait le chien dans les bras, ce que j'avais même pas vu pendant
600
mètres de course.
La survie avait embarqué.
Hey. Elle me dit, il était hors de question que je laisse Loukoum dans l'auto.
Éric, même avec toute ta formation, puis avec tout ce qu'on peut penser dans ce genre de circonstances-là, on arrive, il y a un accident. Mettons que tu es 25 mètres plus loin dans le bouchon du pont, puis que tu es le premier intervenant. Est-ce que tu aurais agi comme le pauvre bon samaritain qui s'est ramassé avec 3 balles dans le corps?
Bien, j'espère que j'aurais réagi comme ça parce qu'il y a un accident, puis j'ai vu les voitures par la suite. L'impact a été monstrueux.
Ouais.
C'était du métal tordu. Je ne pouvais même pas dire si c'était un auto, un SUV, un pick-up, tellement c'était violent. Fait que la personne a eu la bonne réaction, mais j'imagine que nous, on est arrivé quelques secondes après le tir. Et puis là, ben, il y avait 10, 15, puis ça a donné que c'était des jeunes. J'en ai parlé avec mon épouse. C'était tous des jeunes. Là, ma femme m'a demandé après ça pourquoi c'était des jeunes. Elle s'est demandé est-ce qu'il y a eu un party qui a mal viré? ça a juste à donner comme ça.
Ah oui.
Mais la réaction du bon samaritain était la bonne chose à faire. Mais je te dirais que par rapport au fait que les gens ont resté beaucoup dans la voiture, les gens, peut-être qu'ils ont eu de la difficulté à processer qu'est-ce qui se passait.
Ah, je pense que oui.
Moi, c'est tellement invraisemblable.
J'ai vécu 3 ans aux États-Unis où les jeunes avaient des cours de tireurs actifs à l'école. Je te confirme qu'aux États-Unis, la majorité des gens auraient quitté leur voiture parce que les gens s'attendaient au pire. Tu comprends, il y a assez d'histoires de tireurs actifs. Je pense qu'à Québec, tu sais, quand même une ville tranquille, les gens se sont peut-être dit la police s'en occupe ou c'est peut-être un cadrage au volant, c'est terminé. Moi, dans ma tête, j'ai dit non, c'est le pire scénario. Soit terroriste ou santé mentale, ils tirent sur les gens. Je vais pas rester là.
Fait que dans un cas comme celui-là, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné. J'avais pogné un reportage là-dessus, puis j'en ai déjà parlé aux auditeurs. C'est que on prenait l'exemple de gens qui n'évacuent pas lorsqu'il y a, par exemple, des inondations majeures, puis qui décident de rester dans leur maison. Il y a des gens que, dans leur voiture, ils ont l'impression que c'est la dernière place où ils sont vraiment en sécurité, alors que le réflexe d'instinct de survie devrait dire « tu te lèves, puis tu sors ». Mais la personne qui a tendance à rester dans sa maison pendant une inondation, ben dans des circonstances comme celle-là, où tu ne sais pas ce qui se passe vraiment, tu vois des gens courir autour, il y a des gens qui instinctivement vont se dire « je suis dans mon char, je suis en sécurité, je bouge pas de là ».
J'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux aussi. J'ai parlé avec des spécialistes, des policiers, même ils m'ont dit « la seule chose qui protège, c'est le bloc moteur ». Ils disent « les portes, ça arrête même pas un calibre 22 ». Puis le problème aussi, c'est que si dans le pire scénario, c'est vraiment des gens qui s'en prennent à des innocents, mais quand tu es dans ta voiture puis le tireur est à côté, il n'y a plus de possibilité de se sauver. Fait que nous, on voulait mettre de la distance. Puis j'exagère pas, là. Quand on a couru au début, pendant un certain temps, on a pris l'accotement parce que c'était plus rapide. On n'avait pas à foncer dans les voitures. Puis mon épouse et moi, on a dit non, on est vulnérable dans l'accotement parce qu'on a une ligne de tir directement. On va se mettre à zigzaguer entre les voitures. Même on cognait dans les fenêtres pour dire tireur, sauvez-vous. C'était surréaliste, puis je fais des blagues, mais sur le pont, quand les gens ont couru, là, j'ai pas pensé sur le coup, mais je l'ai pensé après. J'ai dit, pour moi, Godzilla est en train d'arracher le pont en avant, comme moi, dans un film.
Tu sais, dans tous les films d'action, à un moment donné, ça se passe sur un pont. Dans chaque Spider-Man, à un moment donné, tout le monde est sur le pont, ils sortent des chars,
ils
se mettent...
Ça fait bien pour un film d'action.
Mais là, ça fait une couple de fois, Éric, que ça arrive à Québec, des affaires qu'on se dit, c'est pas supposé d'arriver ici. Puis celle-là, c'est la cerise sur le Sunday.
Ah oui, puis c'est triste, puis tu sais, je pense que les gens vont devoir avoir des sensibilisations, même des formations, parce que je sais qu'aux États-Unis, ça se donne beaucoup, chez les employeurs le donnent, un tireur actif. Là, c'est particulier, c'était sur un pont, comme tu as mentionné, sur un pont, il n'y a pas beaucoup de place à courir, hein, c'est en avant ou en arrière, tu vas pas sur les côtés. Puis c'était carrément Hollywood. Je veux le compter, parce qu'en terminant, quand moi j'ai quitté 3 heures après, ma famille était allée chez la belle-sœur. Ma plus vieille, elle me textait, elle voulait le Wi-Fi, le Amazon Prime. Elle dit « j'arrive pas à dormir ». j'ai dit, je vais aller chez Ashton nous chercher une poutine, ce qui est un classique quand on passe à Québec, mais malheureusement, c'était fermé, fait que je me suis contenté du Tim Horton.
Oui, c'est dans des circonstances de même qu'on s'ennuie des restos
Moses,
24
heures, 24
heures, puis
se
calmer
les
nerfs. Ouais. Moi, j'espérais une bonne poutine Ashton à 3 heures du matin, mais c'était complètement fermé à Lévis.
Hey, Éric, vu que tu es avec nous autres, je peux pas m'empêcher de t'amener sur ce terrain-là. Là, j'ai-tu compris dans l'actualité internationale qu'on arrêtait d'être super ami avec la Corée du Sud parce que Donald Trump est super ami avec le dictateur de la Corée du Nord?
C'est incroyable. Je veux dire, on dirait un canular à chaque fois, mais là, il faut comprendre que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont officiellement en guerre depuis 1950. C'est pas des blagues. Il n'y a pas eu de fin de cette guerre-là. Fait qu'il y a un no man's land entre les deux. Corée du Sud étant nos alliés, Japon étant nos alliés, la Corée du Nord, un pays communiste, tu sais comment que Trump déteste les communistes, pays communiste, tyrannique, dictatorial, totalitaire, et puis maintenant, ben, on est rendu du côté de la Corée du Nord, je veux dire, ça dépasse l'entendement.
C'est spécial en tabarnouche, puis oui, peut-être que Donald Trump n'aime pas les communistes, mais clairement, il trouve que des dictateurs, c'est un certain sex appeal. Hein?
Oui, bien, c'est ça. T'sais, à l'époque, on faisait des blagues, ce qui divisait la Terre avec Xi Jinping, avec Vladimir Poutine, ben là, je vais rajouter Kim Jong-un est rendu qu'il y a une partie de la tarte aussi. Là, il va se prendre la Corée du Sud, le Japon, puis peut-être quelques îles aux alentours.
Mais là, est-ce que Donald Trump va prendre tous les pays avec lesquels les États-Unis entretiennent des relations, puis un après l'autre, il va les casser? Parce que là, ce qui a été annoncé, c'est qu'il avait l'intention de réduire considérablement la participation des États-Unis aux exercices annuels avec la Corée du Sud, les exercices militaires. Mais ça part de où, ça?
Écoute, je te dirais que en gros, c'est qu'en relation internationale, la parole et la confiance des dirigeants est essentielle. Là, ce qui se passe au Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite qui a fait un pacte avec le Pakistan, avec la Turquie, là, ce qui va se passer en Asie, ça va être la même chose. Les pays vont commencer à dire il faut qu'on s'allie entre nous, il faut qu'on trouve des nouveaux partenaires parce que Washington n'est plus fiable. Et ma plus grosse crainte, c'est que certains pays se disent la seule manière d'être respecté, c'est d'avoir une arme atomique. Donc, je vais commencer à me lancer dans la recherche de scientifiques et de technologies pour en arriver à ça. C'est ça qui est le plus grave, c'est que ça a un impact à très long terme, pas juste pour les Américains, mais pour la sécurité globale.
Éric, merci beaucoup de suivre l'actualité internationale pour nous autres, puis merci d'avoir pris le temps en fin de semaine de nous raconter cette soirée complètement folle où tu étais aux premières loges avec plusieurs membres de ta famille. C'est une entrevue d'ailleurs qui est disponible sur tous nos liens, le blvd.fm évidemment, et sur l'application Boulevard. Au plaisir de se reparler, mon ami.
Merci, à une prochaine fois.
Bye-bye. Éric Sauvé, CEO d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense, qui est revenu sur les incidents de vendredi soir. Il était dans deux chars. Ses gars étaient dans une voiture en avant qui avait réussi à passer avant tout le bordel. Et lui était avec ses filles, puis font partie des gens qui sont sortis de leur véhicule en panique pour aller se réfugier un peu plus loin. C'était la première fois qu'on voyait ça de l'histoire du pont.
Oui, puis tu sais, on nous souligne avec justesse que, oui, on a des informations, mais rien d'officiel. Fait que, tu sais, on sait maintenant que la personne qui a reçu des balles, son état de santé est stable. Mais ça, on l'a su pratiquement par la bande. Tu sais, la personne qui était dans le véhicule, dans le face-à-face, on n'a pas plus de détails par rapport à ça.
C'est bizarre.
Puis, je trouve ça excessivement bizarre. Est-ce que c'est uniquement parce que le BEI a ça entre les mains puis qu'on ne peut plus rien sortir pour éviter de teinter l'enquête? Ou encore, c'est juste que on ne sait pas lequel des trois corps de police aurait dû donner des détails?
Oui, mais attends un petit peu, là. Quand il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, le fou qui a tiré du gun à Montréal.
Oui, au mois de juin.
Le BEI a été chargé de l'enquête?
Oui, mais il y a des infos qui étaient sorties avant.
L'identité du tireur, on l'avait, ça n'a pas été long.
Mais tu sais pourquoi?
Non, mais explique-nous-là.
Parce que l'individu qui a été impliqué en fin de semaine puis qui semble avoir perdu la vie, c'est pas quelqu'un qui est connu des milieux policiers.
Il n'y avait pas d'antécédent.
Il n'y avait pas d'antécédent, tandis que le gars de Montréal, souvenez-vous qu'il avait envoyé un manifeste. Manifeste qui s'était retrouvé, entre autres, entre les mains du service de police de la ville de Montréal, mais qui semblait avoir aussi coulé du côté des médias. Fait que c'était plus facile, entre guillemets, d'aller chercher l'identité de l'individu. Ça s'est aussi déroulé à platement parlant, à heure de grande écoute, parce qu'on n'avait pas eu le choix d'avoir des communications dans l'instant présent, parce qu'on fermait des caries. Il y avait tout un périmètre qui était fermé parce que c'était hyper achalandé. Là, parce que c'était le soir, parce que c'est quelqu'un dont on ne connaît pas les motivations au moment où on se parle, puis qui ne semble pas avoir laissé de traces à tout le moins public, bien, on se retrouve un peu dans le brouillard. Puis on dirait que pour se rassurer, on voudrait avoir ces informations-là, puis je le comprends très bien. Là.
Bravo à tous ceux qui sont intervenus pendant la fin de semaine, ouais. Particulièrement Audrey, qui était en plein milieu d'un congé de 4 jours et d'un déménagement, puis qui est quand même revenue pour réussir à avoir cette conversation-là avec notre collaborateur, puis essayer de tenir les gens au courant de ce qui se passait. Il y a quand même quelque chose de triste encore à voir une région comme Québec être sur le neutre la fin de semaine, oui. Au niveau de l'information. Puis tu sais, je veux pas jouer le blame game de qui a été meilleur que d'autres ou whatever. On est une petite gang, on a réussi à se revirer de bord du mieux qu'on peut, mais c'est triste de voir une région vaste comme celle de Québec, importante comme celle de Québec, avoir de la misère à s'informer parce qu'une affaire est survenue un vendredi soir au lieu d'un lundi soir.
C'est pour des grosses business, l'information locale, c'est pas leur pain puis leur beurre, hein, fait que c'est pas, ouais, la priorité dans les dépenses. Puis c'est l'importance d'avoir une boîte où les boss sont installés au bout du corridor puis où on a cette latitude-là de pouvoir agir, bien, ça a permis autant du côté de boulevard que du côté de week-end d'être capable de tenir les gens à jour assez rapidement.
Le lendemain matin, il y avait un bouchon sur le pont, évidemment, parce qu'il s'était passé quelque chose de spécial, une première depuis l'existence du pont La Porte. Je vais faire un petit sondage maison avec vous autres. 418-971-1021. Le lendemain matin, Éric Duhaime qui parle d'un troisième lien dans le trafic, c'était-tu poche ou c'était pas poche? Faites juste m'écrire poche ou pas poche. Je fais un petit sondage maison. Parce que ce matin, j'étais un petit peu seul au combat en disant que moi, ça m'avait mis mal à l'aise, puis j'avais trouvé ça poche.
C'est l'instantanéité qui me rend mal à l'aise. Alors que tu ne connais pas l'état de santé des gens qui étaient là, il manque plein de détails. Puis...
il y a du sang à terre.
C'est ça.
Trouver ça poche. Trouver que ça manquait de jugement politique. Puis j'ai l'impression que quelqu'un qui déjà a l'intention de voter conservateur, puis est pro-troisième lien, évidemment, tout est correct. Mais dans la position où les conservateurs sont présentement, c'est quoi le but? C'est de rassurer les indécis. C'est de montrer que tu es plus crédible que les autres. Fait que de mon point de vue, c'est une mauvaise décision politique. Puis j'ai trouvé ça poche.
Mais moi, c'est surtout que t'avais pas à le faire. Tu sais, tout le monde a vu la situation puis ce que ça a causé. T'sais, tout le monde le voyait qu'il y avait du trafic. Le monde n'est pas cave. Il y en a, là, mais généralement, j'aime croire que le monde n'est pas cave.
C'est l'aberration du détour à Trois-Rivières, on le voyait
c'est
aussi.
Puis encore là, peut-être que je suis trop... je surestime peut-être l'être humain, mais j'aime croire que le monde voit toute la game aller puis est capable de seul se le dire, tu sais... ouais, ça, ouais, le détour à Trois-Rivières, ça n'a pas d'allure, hein? Fait que dans ce contexte-là, en effet, c'était-tu vraiment nécessaire?
Moi, tu joues la carte du trafic à Québec pour faire la promotion d'un troisième lien. J'ai pas de problème avec ça. Mais tu prends le lendemain d'un épisode vraiment unique, puis tu te sers de ça pour essayer de faire avancer le projet. Je trouve ça minus un petit peu. Je trouve ça ticaille. Si quelqu'un d'autre l'aurait fait dans d'autres circonstances, Éric Duhaime aurait été le premier, les deux bras dans les airs, à dire que ça n'avait pas de maudit bon sens puis que c'était de la récupération politique.
Il faisait avec l'histoire des boissons énergisantes.
Ben, mais très
ça,
bon exemple.
Mais ça, c'était des années plus tard aussi. T'sais.
Ouais.
Il y a comme là où c'est pas la même game.
Puis entre vous et moi, c'est-tu vraiment un troisième lien avec une voix de chaque bord en passant par l'île d'Orléans qui aurait permis de ne pas avoir de bouchon vendredi soir? Parce que c'est le projet que propose Éric Duhaime.
Ben, les camions auraient pu passer dessus au moins. C'est peut-être ça
au lieu d'aller à Trois-Rivières.
Ouais.
Tu attends une couple de jours, là, Quand tu parles de ton projet de troisième lien, tu donnes un exemple. Hey, on n'est jamais à l'abri qu'il puisse se passer quelque chose.
Exact.
Puis qu'à ce moment-là, ben, on soit obligé de détourner la situation puis regarder à quel point il y avait une aberration. Je trouve que le message est plus puissant quand tu laisses la poussière retomber.
80-20 à peu près. Les gens qui trouvent pas sa poche sont à 80% à peu près. Je suis pas surpris, mais en même temps, moi, je peux pas faire semblant pour faire plaisir à du monde. Là, j'ai dit, je trouve ce genre de truc-là, ce genre de façon-là de faire de la politique, je trouvais ça minable à gauche, je trouve ça minable à droite, puis ça me fait pas voter ni d'un bord ni de l'autre. Je suis curieux, par exemple. Puis ça, s'il y a des gens qui veulent être honnêtes sur cet aspect-là, est-ce que Éric Duhaime vous a convaincu avec sa sortie en fin de semaine d'être pour un troisième lien si vous étiez pas pour? Et est-ce qu'il vous a convaincu de voter conservateur si vous faites partie des 50% d'indécis? Parce que le nerf de la guerre, il est là. Si vous voulez parler de politique, la stratégie politique, elle est là. Est-ce qu'Éric Duhaime a convaincu un voteur de la région en fin de semaine de voter pour lui?
Puis là, avec sa vidéo, là, pas l'incident en tant que tel.
Non, rien à voir.
C'est pas le fait que toi, tu te rends compte avec l'incident, que ça n'a pas de bon sens. La vidéo d'Éric Duhaime.
Ouais. Est-ce que cette vidéo-là fait en sorte que vous vous êtes dit « Ouais, moi, c'est pas ça que je pensais. » Mais là, il a réussi à me faire changer d'idée. Il a réussi à m'amener de son bord. Bref, il est 15h04. Vous êtes très nombreux à vous exprimer. J'aime ça de même. 418-971-1021. 418-971-1021, Max?
Sur la route, c'est compliqué depuis...
Ça prendrait un troisième lien.
Je prendrais beaucoup d'affaires aujourd'hui, je trouve. Je prendrais aussi une route parallèle à 20 direction ouest depuis une couple de mois.
Oui, ben c'est ça l'affaire. C'est qu'en ce moment, le secteur des ponts, ça va quand même bien. Fait que là-dessus, j'ai pas grand-chose à vous dire. Par contre, c'est ça. C'est vraiment la 20 ouest où c'est encore... ouais, terrible. Là. À l'approche de route du président Kennedy jusqu'à Taniata, c'est bien au rouge. Sinon, en quatre direction sud, petit ralentissement hauteur de la 40. Capitale Est, hauteur à partir de Neuvial jusqu'à Pierre-Bertrand au rouge.
Ça m'a fait penser à Charlie Kirk cet été aux États-Unis. Pas cet été, mais avant ça.
Ouais.
Charlie Kirk, qui était un polémiste de droite, qui faisait une conférence, puis il a été tiré pendant qu'il faisait une conférence en public. Vous vous en souvenez probablement. Puis sur les réseaux sociaux, le sang avait même pas fini de sécher à terre. Puis t'avais déjà les démocrates puis les républicains qui s'engueulaient puis qui s'ostinaient pour...
faire avancer des points chacun de leur côté.
Ouais. Ah oui, ça prouve mon narratif. Ben non, mais c'est parce qu'il s'est fait tirer une balle dans la tête, là. Voulez-vous attendre, mettons, qu'on finisse de nettoyer avant de recommencer à vous ostiner sur qui a raison sur le fond, puis c'est-tu la droite qui est haineuse, c'est-tu la gauche qui est haineuse, puis ainsi de suite. Il y a du monde qui... Ben, il y a du monde. Nous, je vais parler au nous, je pense qu'on est tous pareils. Je pense qu'on a la tête enfoncée dans le nombril beaucoup. Puis dans des circonstances comme celle-là, où aujourd'hui, on n'a même pas encore de détails sur ce qui s'est passé, c'était-tu vraiment la promotion d'un troisième lien qui pressait le plus en fin de semaine? Moi, je pense pas. 418-971-1021. Courte pause, on vient.
Gravel